Si l'on est ce que l'on mange, on habite aussi dans un endroit qui nous définit. Et la nourriture définit aussi l'endroit où on habite et vice-versa. Enfin, tout ça, c'est un petit peu lié. De plus en plus, individuellement et collectivement, on se pose des questions autour de notre alimentation. Et les politiques, depuis quelque temps, se sont saisies de ce projet aussi-là, de ce dossier. Comment faire en sorte que l'on mange mieux, que cette nourriture qui est produite à côté de chez nous soit accessible? C'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui au travers du projet alimentaire de territoire, le PAT. Nous sommes en compagnie de Maurice Laugier, il est président de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, source de lumière et maire de Saint-Benoît, et Olivia Danne, elle est directrice du pôle aménagement et développement de la communauté de communes en charge du PAT. Bonjour messieurs, dames.
Bonjour.
Bonjour.
Si on essaye de définir dès le début, qu'est-ce qu'un projet alimentaire de territoire ?
C'est retrouver tous les partenaires pour l'alimentation, je dirais, du producteur au consommateur. Donc, toute la chaîne de l'alimentation dans ce projet-là. Et ça me paraît quelque chose d'important. Et dire que c'est aussi une volonté politique des élus d'avoir lancé ce PAT.
Donc, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas contractuel. C'est une proposition qui est faite d'organiser un petit peu l'alimentation sur son territoire.
Tout à fait, aucune obligation. Et la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon s'est lancée en 2019 sur un projet alimentaire territorial et avec le soutien des 41 maires qui composent la communauté de communes. Donc c'est un aspect, un point politique important d'avoir fait ce choix sans obligation, je dirais. C'est une volonté.
On se pose en ce moment pas mal de questions autour de l'alimentation, de la manière dont l'agriculture s'est développée suite à la Deuxième Guerre mondiale et quelles en sont les conséquences à l'heure actuelle. Comment arriver à s'achalander en circuit court? Est-ce que ce rapport à l'alimentation, c'est vraiment quelque chose d'actualité pour vous?
Bon, je crois que je viens d'indiquer qu'on avait lancé le PAT en 2019, ce qui veut dire que c'était pas l'actualité d'aujourd'hui, mais on avait senti qu'il y avait cette nécessité. Et l'actualité d'aujourd'hui nous conforte finalement, puisque ces questions-là deviennent de plus en plus importantes. Je pense que la pandémie est pour quelque chose, effectivement.
Alors pour faire ce PAT, évidemment, il a fallu répondre aussi à quelques critères pour que ça rentre dans un projet alimentaire de territoire. J'imagine que c'est un acronyme qui définit quelque chose. À quoi ça correspond exactement ?
En fait, dans les projets alimentaires territoriaux, il y a de nombreux aspects qui sont possibles, mais il y en a quelques-uns qui sont obligatoires. Donc il faut, quand on travaille sur tout ce qui est lié à la protection du foncier agricole, qui sont essentiels à l'agriculture des territoires, puisque sans terre, on ne peut pas faire d'agriculture. Il y a des dimensions aussi de justice sociale, c'est-à-dire travailler aussi à ce que tous les publics puissent avoir accès à l'alimentation de qualité locale et que ce ne soit pas réservé à une certaine frange de la population. Il y a d'autres thématiques aussi un petit peu obligatoires qui sont, alors c'est un peu un mot compliqué, mais enfin compliqué, c'est l'ancrage territorial de l'alimentation. Donc c'est vraiment travailler en circuit court sur les territoires et se baser sur les ressources du territoire pour proposer à nos habitants une alimentation qui soit le plus possible locale. Voilà, mais ensuite, chaque territoire, dans l'élaboration de son PAT, choisit quelles actions il met dedans en fonction de son territoire, des enjeux, des objectifs. Donc il y a une base, on va dire, qui est commune à tous les PAT, mais ensuite chacun développe des actions spécifiques qui sont en lien avec son territoire.
Mais à partir du moment où il y a un cahier des charges, est-ce qu'il y a des contreparties ?
Alors, on bénéficie de soutien financier par rapport à ces projets alimentaires territoriaux qui sont vraiment une démarche nationale qui se développe partout en France. Pour notre projet alimentaire territorial, on bénéficie du soutien de nombreux partenaires qui sont des partenaires nationaux et des partenaires régionaux. Donc, il y a le ministère de l'Agriculture, il y a l'ADEME qui est l'Agence pour le développement de l'énergie renouvelable et de la maîtrise de la consommation énergétique, la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Ce qui veut dire qu'il existe des projets alimentaires territoriaux sur des échelles plus grandes ?
Alors, échelle plus grande, l'échelle intercommunale est en général l'échelon qui est le plus utilisé pour les PAT. On a aussi des PAT à l'échelle de parcs. Les parcs naturels régionaux, par exemple le Luberon, est très impliqué dans un projet alimentaire territorial. Mais c'est vrai que pour que ça ait du sens, il faut quand même une échelle qui soit suffisamment grande, parce qu'il faut avoir des producteurs, des consommateurs, des distributeurs, et donc tout ça nécessite quand même une certaine échelle territoriale.
Donc, dans un premier temps, pour élaborer un projet, j'imagine qu'il faut savoir de quoi on part et pour cela, faire un bilan un petit peu des pratiques actuelles. Alors, est-ce que ça a commencé au début du projet alimentaire de territoire ou est-ce que c'était déjà en amont que les autres intercommunalités ou au niveau du pays avaient déjà eu des réflexions?
Bon, le pays à 3V avait effectivement travaillé là-dessus et de manière importante. Hein, et je crois que c'est la suite logique de tous les travaux menés par le pays à 3V, effectivement, qui ont conduit à ce projet alimentaire territorial. Et puis, c'est les retours de toutes les communes, des élus, mais aussi des habitants. Et on sent ce besoin, effectivement, qui devient de plus en plus fort pour aller dans ce sens-là.
Alors, quelles étaient les bases du bilan sur lesquelles vous avez commencé à travailler pour choisir les orientations après ?
Alors, au niveau du pays A3V, donc, il y avait déjà eu une charte d'agriculture durable de 2010, donc, qui traçait quand même des grands enjeux et des grandes thématiques pour notre agriculture sur notre territoire. On avait quand même le projet Pays Gourmand aussi, donc de nombreux projets qui étaient lancés. Et au démarrage de notre projet alimentaire territorial, on a donc mis en cohérence ces différentes actions qui existaient déjà. Et on en a développé des nouvelles qui correspondaient aux attentes et aux besoins qui étaient ressortis de ces premières actions. Voilà. Et dans notre projet alimentaire territorial, on a rajouté du diagnostic qui nous manquait. Donc un diagnostic sur le foncier agricole avec la SAFER, qui est un organisme agricole qui gère le foncier agricole, et une étude avec la Chambre d'agriculture sur le potentiel de production en circuit court du territoire. Donc on a vraiment fait un focus sur notre territoire, quelle production agricole ils proposent, comment sont-ils commercialisés, et en termes de circuit court, qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'il faudrait développer.
D'accord, ou même quelles sont les potentialités.
Aussi, oui. Sachant qu'effectivement, hein, on est sur un territoire de montagne, hein, donc voilà, on sait très bien que tout ce qui est production maraîchère, tout ce qui est production fruitière, même si on a très envie de manger local, on ne pourra jamais avoir des productions maraîchères. Alors on en a, bien évidemment, mais on n'aura jamais de fruits et de légumes en février ou en mars, ça c'est sûr. Et
peut-être après, préciser aussi que nos objectifs, c'est manger de saison aussi. Et c'est... Alors la nourriture de qualité, certes, et je crois que nos agriculteurs, nos éleveurs amènent tout ça, ont tout ça sur le territoire. Moi, je crois qu'on a un territoire d'une grande richesse. On ne le mesure pas toujours, d'ailleurs. Et je crois qu'il faut aussi apprendre à manger de saison, hein, de qualité, de saison. Je dirais les deux vont bien ensemble.
Est-ce qu'il vous a semblé, dans vos différents questionnaires et dans les rapprochements que vous avez pu faire avec les élus et la population, que l'on était particulièrement sensible à un mode de vie, à un mode d'alimentation, de par justement l'endroit où on habite ?
Je crois que c'est un ressenti peut-être tout à fait personnel, mais moi je suis persuadé que oui, qu'il y a ce sentiment-là, qu'il y a ce ressenti-là de la part des populations. Il me semble que le confinement qui a eu lieu, que la pandémie qui existe encore hélas, a augmenté encore ces choses-là. Et je le vois à l'échelle de la communauté de communes, mais dans ma commune aussi, où on voit qu'il y a eu ce rapprochement, ce besoin finalement de reprendre ses marques. Et quand je disais manger local, oui, il y a eu un impact important. Manger de saison aussi, il y a eu un impact en disant voilà, c'est... On ne mangera pas les fraises au mois de décembre. Hein, et c'est quelque chose qui revient dans la discussion, enfin un peu style café du commerce, mais c'est comme ça que les choses reviennent.
Quels ont été les grands axes de travail qui ont été définis suite à ce bilan ?
Alors, on travaille actuellement sur 6 axes principaux. Donc, il y en a un qui est par rapport au gaspillage alimentaire. Donc, on travaille sur les collèges et sur les écoles primaires pour quantifier le gaspillage alimentaire et ensuite essayer de proposer des mesures pour le diminuer, que ce soit au niveau des équipes de cuisine ou au niveau des convives. On travaille sur l'approvisionnement des restaurants collectifs en produits locaux et régionaux. On travaille avec le département pour cette action-là. Essayer de proposer, de trouver une solution logistique pour que nos cantines et nos restaurants collectifs puissent trouver des produits locaux. On travaille également sur l'éducation alimentaire de la jeunesse, c'est-à-dire sensibiliser les enfants à qu'est-ce qu'ils mangent, comment c'est produit, l'agriculture. Donc ça, c'est aussi dans toutes les écoles primaires de la communauté de communes. Comme je vous l'ai dit aussi, on a eu 2 études par rapport au foncier agricole et par rapport à la production en circuit court du territoire. Et enfin, on a une dernière action qui est fortement impactée pour l'instant par le contexte sanitaire. C'est la justice sociale, c'est faire en sorte que tout le monde ait accès à une alimentation de qualité. Et on a des projets avec les centres médico-sociaux d'essayer de rassembler les personnes isolées autour de la nourriture. Mais là, voilà, le contexte fait qu'on ne peut pas rassembler les gens et encore moins autour d'un repas ou de l'alimentation. Donc c'est des actions qui sont pour l'instant postposées.
mais avec la ferme volonté de les réaliser dès que la situation s'améliorera, clairement.
Si on évoque le moment du confinement qui, comme vous le dites, hein, Monsieur Laugier, a été peut-être un moment charnière dans la réappropriation de son alimentation, est-ce que le temps que l'on peut passer à cuisiner ou à faire ses courses, hein, ou à acheter des produits, rentre en ligne de compte? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte?
Je pense qu'il y a effectivement qu'il y a eu un changement d'habitude. Hein. Peut-être beaucoup plus de temps consacré à de véritables repas, une véritable cuisine. C'est quelque chose qui est ressorti fort. Et de par là, aller vers les circuits courts, tout à fait naturellement, je dirais. Parce qu'ils étaient confinés, parce qu'il n'y avait pas les possibilités qu'ils avaient d'aller dans les grandes surfaces et autres éloignées de leur village, je dirais. Donc ça a pu jouer, effectivement. Est-ce que ça va être durable? C'est une grande question.
Voilà, c'est ça la question. Mmh. C'est maintenant qu'on peut identifier que ce facteur temps peut être un frein. Comment on fait dans un projet alimentaire de territoire pour faire en sorte de qu'il soit moins impactant?
Alors, ça peut être un frein, mais on a quand même eu une stagiaire en 2019 qui a travaillé sur l'approvisionnement des habitants du territoire. Et sur un territoire comme le nôtre, on ne peut quand même pas oublier une part importante de gens qui ont des potagers, enfin qui font ce qu'on appelle de l'autoproduction, c'est-à-dire qu'ils ont des potagers, ou alors par exemple, il y a tous les produits de la chasse quand même, qui pour certaines personnes rentrent dans l'alimentation. Et donc, ce sont des pratiques qui déjà prennent du temps. Donc on est quand même sur une partie de la population qui a l'habitude de consacrer du temps à son alimentation, que ce soit par la production personnelle et la cuisine, ou que ce soit par prendre le temps d'aller au marché chercher des produits frais. Donc là, je pense que c'est plutôt les citoyens aujourd'hui, quand même pour la plupart d'entre eux, commencent à intégrer le fait qu'il faut du temps pour pouvoir bien manger. Là-dessus, c'est pas nous hein, qui pourrons, je pense, faire en sorte que les gens consacrent plus de temps à leur alimentation, mais on peut les inciter et leur donner envie.
En regroupant, par exemple, en faisant des centres, des points d'achat de produits locaux, ne serait-ce que ça, au lieu de passer peut-être d'un producteur à l'autre, ça peut être l'une des solutions.
Oui, ça peut surtout être aussi de communiquer sur comment trouver ces produits pour moins perdre de temps. Il y a quand même la maison de produits de Pays de Beauvaisis, celle de Castellane qui est en projet. On a des marchés hebdomadaires quand même sur le territoire qui sont assez bien achalandés avec beaucoup de producteurs locaux qui y participent. Et là, on a récemment sorti un annuaire des producteurs locaux pour que les gens puissent facilement trouver l'information. Donc ce sont des points de démarrage hein, pour essayer de faciliter l'accès à la population aux produits locaux.
Alors quels ont été les freins que vous avez identifiés pour la mise en place de ce projet?
Bon, frein, je ne sais pas si le mot est approprié, je ne pense pas.
Alors, on a pu
avoir quelques difficultés, quelques... moi, j'en identifie pas énormément, je dirais. Le tout, c'est peut-être un petit peu de... le nombre de partenaires avec lesquels on travaille est dans des conditions tout à fait différentes. On parlait du département, par exemple, pour les collèges, les communes, pour les écoles. Donc il y a une série de partenaires qui est très importante et quelquefois il faut savoir mettre en musique un petit peu et puis faire émerger, je dirais, cet intérêt général pour tout le monde où chacun va prendre sa part, mais chacun est un maillon. Et je le disais en introduction, un maillon de la chaîne alimentaire. Donc ça peut être une difficulté, mais il suffit de le mettre en musique. Enfin, moi, je suis résolument optimiste là-dessus. Je pense qu'on va avancer, qu'on peut avancer. Un point peut-être, puisqu'Olivia citait la maison de pays, de produits de pays. On en a une qui est en travaux, ouverture prévue au printemps, fin de printemps, hein, avec une association de producteurs qui prendra en charge. Et donc c'est vraiment du manger local. Et donc c'est quelque chose... où les règles sont bien claires, c'est des productions locales, c'est pas de la revente, c'est pas autre chose. Donc ça, c'est quelque chose qui répond véritablement à la question.
Dans le cadre de la maison de pays, les retours que l'on peut avoir quand on questionne un petit peu la population, c'est l'inquiétude autour du fait que ce soit principalement pour les touristes et que ça coûte un petit peu d'argent. Il va y avoir un véritable travail pédagogique à faire autour de ça?
Oui, je pense qu'il y aura du travail. Mais je pense que souvent, quand on aborde ces sujets-là, on pense effectivement aux touristes, mais on ne prend pas conscience du besoin qu'il peut y avoir au niveau des populations qui sont là à l'année. Et je pense qu'il faudra faire de la pédagogie pour les amener. Et je ne suis pas trop inquiet là non plus. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans les travaux, donc on a du mal à identifier ce que sera cette maison de produits de pays, qui sera l'intérieur, des inquiétudes, est-ce que... Voilà. Mais une fois la maison ouverte, j'ai aucune inquiétude, ça va fonctionner. On a l'exemple d'autres maisons de pays, alors sur le territoire Bobzé. Et ça marche très bien.
Voilà. Donc, on a aussi l'exemple de maisons de pays qui se sont cassées la margoulette, comme à Trigance. Hein.
On a toujours le contre-exemple.
Ah, oui.
C'est sûr. Mais après, dans les maisons de produits de pays du département des Alpes-de-Haute-Provence, hein, on se rend compte que la clientèle locale, aujourd'hui, est de plus en plus importante. Hein. Effectivement, peut-être qu'à la création des maisons de produits de pays, il y a 15-20 ans, c'était plutôt à visée touristique. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui hein, dans la clientèle des maisons de produits de pays. La clientèle locale est de plus en plus présente.
Est-ce que le fait qu'il faille se déplacer, par exemple, la géographie de notre département peut être un peu contraignante ?
Effectivement, c'est une réalité. Je pense quand même que si on arrive à mailler, alors on parlait des maisons de produits de pays, mais on parlait des marchés aussi, et puis de ce qui peut être encore et qui existe encore dans des petites communes, ces marchands ambulants, mais qui proposent uniquement de la production locale.
Parce que j'ai même l'impression que ça se développe. Hein.
Et c'est une attente, à mon sens, hein, une attente des villageois. Je dirais qu'en dehors de l'achat de la production locale, il y a le lien social qui est important, le lien relationnel. Souvent, pour certaines personnes, c'est leur contact et leur seul contact avec le facteur, je dirais. Donc, quelque chose de très important qui va au-delà de la vente elle-même de la production locale.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte dans l'élaboration de ce projet, la dimension humaine de la nourriture ?
Oui, alors principalement auprès des enfants déjà, hein, pour les sensibiliser à sur deux volets. Hein, sur le volet à la cantine quand même, je m'informe sur ce que je mange à la cantine et puis j'essaye de respecter la nourriture, de pas la gaspiller, de communiquer avec les équipes de cuisine. Donc il y a normalement essayer de retrouver aussi ce côté plaisir à la cantine. Donc il y a ce côté-là. Sur l'action que pour l'instant on n'a pas pu mettre en place, hein, cette action avec les centres médico-sociaux, d'essayer de rassembler les personnes un peu isolées autour de l'alimentation, de l'intergénération, partage de recettes entre les aînés et les plus jeunes, ce sont des choses qu'on aimerait travailler. On avait également des projets avec la minoterie Secret de Fabrique là-dessus, mais là de nouveau malheureusement tout ce qui est rassemblement public autour de l'alimentation c'est impossible pour l'instant, donc on garde toutes ces idées bien au chaud et puis dès qu'on va pouvoir de nouveau se rassembler autour de moments conviviaux, on le fera avec plaisir.
Alors on sent bien qu'il y a eu un travail très très important autour des enfants, du public scolaire, que ce soit au niveau des écoles ou des collèges. Mais alors lorsque l'on parle de bien manger ou de gaspillage alimentaire, comment on fait pour arriver à contacter le public adulte, celui qui dans l'absolu achète et cuisine ?
Très souvent, on a l'habitude de dire que c'est les parents qui éduquent les enfants. Et je crois que dans le cas précis, c'est l'inverse. C'est à partir du travail qu'on mène auprès des enfants qu'il y a ce retour vers les parents et qui ces enfants qui font prendre conscience aux parents et ils sont formidables là-dessus. Donc je pense que cet aspect-là est important. La cible parent est effectivement quelque chose d'important.
Enfin, parent ou adulte, qu'on peut être adulte et ne pas
d'accord.
être parent.
La cible adulte, effectivement, c'est quelque chose d'important. Je voudrais revenir quelques secondes sur la notion de vent dans les villages. Et pour faire part d'une anecdote, mais durant tout le confinement l'année dernière, ce que j'ai constaté dans mon village, mais de par les discussions avec mes collègues, c'était un peu pareil, c'est cette notion de partage qui n'existait pas, et chacun a son petit jardin. Et on a trouvé, alors le confinement, je pense, a aidé à ça, à ce qu'il y ait un partage qui n'existait pas, et chacun donnait à l'autre. Avant, il restait ou les week-ends, pas en permanence, et ça crée des liens importants. Voilà, je souhaitais
dire.
Oui,
d'échanges, de troc, de partage.
Tout à fait,
oui.
Puis quelque chose de naturel. Hein, on partage, on a, donc on partage.
Mais est-ce que l'on sait si à l'heure actuelle, ces pratiques ont perduré ?
C'est difficile à dire.
Oui.
Il faut attendre les prochains jardinages, je dirais, dans le cas précis, pour voir si ça perdure. C'est mon souhait.
Donc, dans un premier temps, avant l'idée de projet de ce projet alimentaire, il y avait déjà eu un travail avec les restaurateurs qui, eux, avaient déjà été sensibilisés au fait d'utiliser des produits locaux.
Oui, le label Pays Gourmand, hein, qui est actif sur notre territoire depuis bientôt 7 à 8 ans, a permis de pouvoir après engager cette démarche de pâte, puisqu'on avait quand même déjà de nombreuses actions. Donc le label Pays Gourmand poursuit toujours sa route avec une vingtaine de restaurateurs labellisés. Bien évidemment, là aussi, c'est un public qui est un petit peu compliqué pour l'instant, mais on espère qu'ils pourront faire une belle saison 2021. Et ça concerne aussi les artisans des métiers de bouche, puisqu'on a 8 artisans qui sont labellisés Pays Gourmand.
Et donc, à l'heure actuelle, si Alors, si un restaurateur, lorsqu'il aura la possibilité de réouvrir, évidemment, veut travailler avec des produits locaux et éventuellement rentrer dans ce label, eh bien, il suffit de vous contacter.
De contacter la communauté de communes.
Au-delà de proposer, je dirais, dans les repas, les produits locaux, c'est l'explication de tous ces produits, c'est les commentaires que peut faire le restaurateur, c'est l'identification sur le territoire de d'où vient la viande, d'où vient le fromage, d'où vient l'huile. Et c'est quelque chose, enfin pour m'y rendre quand c'était autorisé, dans ces restaurants, c'est quelque chose d'assez formidable parce que, outre le plaisir de déguster des repas intéressants, c'est tout ce qui va avec. Et ça, c'est un vrai vecteur de développement.
On a l'impression qu'il y a très peu de diversité dans les cultures sur le territoire, alors que c'est relativement faux, avec une présence très forte de la production ovine. Est-ce que là aussi, lorsque vous avez essayé de faire le point sur les différentes productions, vous avez été plutôt surpris de voir la pluralité de ce que l'on pouvait trouver sur le territoire ?
Je ne sais pas si c'était une surprise, mais... Je crois qu'on avait conscience qu'il y avait cette pluralité sur le territoire. Alors certes, les ovins, c'est un caractère très dominant, je dirais, au niveau de la production. Mais pour autant, non, on avait... Et je pense que l'annuaire des producteurs qu'on a lancé donne l'explication là-dessus et montre effectivement, par l'exemple, toute cette diversification qu'on a. On retrouve de tout et on retrouve par secteur géographique, effectivement... toute la diversité des cultures, des élevages, qui me paraissent quelque chose d'important.
Le territoire est grand, donc c'est vrai qu'entre le nord et le sud, on a des climats qui sont différents, avec des productions différentes, donc ça enrichit notre offre et notre possibilité. Justement, par cette différence d'altitude, cette différence de climat permet une grande diversité de production. Certes, il y a une dominance des éleveurs, puisque c'est à peu près la moitié de nos agriculteurs, mais l'autre moitié, elle, est extrêmement diversifiée.
Dans les agriculteurs que vous avez recensés, est-ce qu'il y en a qui ne vendent pas du tout sur le territoire et dont c'est le choix ?
On a un petit peu tous les profils. On a des agriculteurs qui vendent à l'extérieur. On a des agriculteurs qui vendent pour moitié sur le territoire, moitié à l'extérieur. Il y en a qui vendent tout sur le territoire. Chaque producteur a un circuit qui lui convient en termes de commercialisation. Ce qui est sûr, c'est qu'on a du potentiel d'installation, puisqu'on a tous les producteurs qu'on a contactés n'ont pas de difficulté pour vendre leurs produits. Au contraire. Donc on sait qu'on a largement de quoi installer des nouveaux agriculteurs sur des produits diversifiés parce que la demande est là et qu'on est plutôt en manque d'offres qu'en manque de demandes.
Et alors comment concrètement, au niveau d'une intercommunalité, on peut favoriser l'installation d'agriculteurs ?
On avait avec la SAFER une convention pour pouvoir préempter au nom des 41 communes pour installer des agriculteurs pour que les terrains ne partent pas pour d'autres utilisations.
Oui.
C'est quelque chose qui est important. Après, on accompagne toujours, effectivement, tous ceux qui souhaitent s'installer dans le cadre du développement économique, en donnant toutes les aides, tous les bons tuyaux, je dirais, pour pouvoir plus facilement s'installer sur le territoire. C'est quelque chose auquel on est très, très attentif, effectivement.
Dans l'élaboration des plans d'urbanisme, est-ce qu'il y a eu un axe particulier, est-ce qu'il y a un axe particulier qui est réfléchi autour du maintien des terres agricoles ?
Alors, effectivement. Donc, on a une situation qui est un peu hybride de par le regroupement de nos communautés de communes, où on a un plan local d'urbanisme intercommunal sur l'ancien Moyen Verdon, 19 communes. Mais on lance le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, et qui, une fois terminé, il y aura un PLUI intercommunal pour la totalité des 41 communes. Ce SCOT va préciser un certain nombre de choses. Et il va y avoir des débats qui vont être intéressants là-dessus, sur cet aspect-là comme sur d'autres. Mais ça sera la vision à 20 ans du territoire. Et tous les documents d'urbanisme devront se mettre en conformité avec ce qui sera décidé, acté dans le SCOT. Et donc le SCOT vient d'être lancé, il a été prescrit il y a 2 mois,
et on attaque... Donc le SCOT, schéma de cohérence territoriale.
Tout à fait.
Excusez-moi, je vous ai coupé du coup.
Non,
le SCOT vient d'être lancé.
C'était très bien, il vient d'être lancé, donc tout le monde est au travail là-dessus, et il y aura bien évidemment des participations de la population, et on avait souhaité que le conseil de développement qui existe sur notre communauté de communes puissent être acteurs, et notamment avec les différents publics. On avait prévu des réunions publiques hein, dans les différents villages. Le confinement nous empêchait de les réaliser, mais ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain. Ça nous paraît important et c'est une condition pour la réussite du SCOT.
Donc on a vu qu'à l'heure actuelle, il y avait pas mal déjà de travaux qui sont mis en place autour de ce projet alimentaire de territoire. Dans l'avenir, proche ou lointain, donc il y a eu très récemment, là, au mois de décembre, la parution de l'annuaire des producteurs, qui restera juste en format numérique ou il arrivera en format papier un jour ?
Alors, on l'a plutôt mis sur du numérique parce qu'on sait que c'est des données qui changent
qui
énormément
sont mouvantes, ouais.
Entre des producteurs qui s'installent, d'autres éventuellement qui partent à la retraite, des changements de numéro de téléphone, des changements de point de vente. Et le numérique est quand même la façon la plus facile de mettre à jour et que de faire en sorte que l'information soit la plus correcte possible. Donc l'impression papier, bon, bah déjà écologiquement parlant, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et aussi, voilà, on sait très bien que le jour où on l'imprime, on a potentiellement des erreurs qui risquent d'arriver assez vite derrière. Donc le choix a été fait du numérique pour pouvoir actualiser facilement le document. Mais bon, on n'est pas fermé non plus.
Après, hein. je sais, on a des retours de communes qui nous disent le souhait qu'elles ont. Alors, peut-être pas d'avoir l'annuaire en totalité, mais d'avoir leur secteur géographique, une extraction, je dirais, papier de cet annuaire.
Et oui.
Je crois qu'on s'interdit rien. Il faut qu'on soit efficace. Et si efficacité, c'est ça, ben on ira vers cette efficacité-là.
Donc alors, quelles sont les prochaines pistes à développer dans l'élaboration de ce projet ? Et est-ce qu'à un moment, on considère qu'il est clos, il est terminé ou que c'est quelque chose qui perdure ?
Alors, il n'est pas clos, il n'est pas terminé. Et lors d'un dernier conseil communautaire, on a été amené à s'inscrire dans un appel à projet dans le cadre du plan de relance. On a des possibilités, effectivement, de financement, et donc on a, et là aussi ça a été l'unanimité des 41 communes pour s'inscrire dans cet appel à projet et pour réaliser un certain nombre de choses hein. Au niveau des investissements, c'est équiper les crèches en carré potager, c'est quelque chose de très concret, d'actuel, équiper les écoles primaires en composteur collectif. Et il faut savoir que dans le même temps on a un appel à projet au niveau de la communauté de communes sur les biodéchets. Où le principe qu'on retient, c'est de dire 41 communes ne sont pas au même niveau, n'ont pas les mêmes objectifs, pas les mêmes envies, ne sont pas prêts en même temps. Et au lieu de faire quelque chose très militaire, je dirais, pour les 41 communes, on dit ceux qui sont prêts, lancez-vous. Et on vous soutiendra financièrement pour ces appels à projets.
Super.
Au niveau de l'environnement. Et donc ça rejoint le PAT, effectivement, quand on installe des composteurs dans les écoles, avec tout le travail de sensibilisation qu'il y aura derrière. Donc, c'est un exemple, c'est équiper en composteur aussi les jardins partagés, par exemple. Et voilà, d'autres initiatives comme ça. Et donc, on attend la réponse. C'est tout récent de l'État sur cet appel à projet dans le cadre du plan de relance. Et ça sera de nature à booster encore notre projet alimentaire territorial.
Effectivement, la poursuite là, qu'on envisage, elle vient hein, de la première partie des actions qui ont fait émerger des besoins. Et donc, on s'est rendu compte que les jardins partagés étaient une thématique qui intéressait à la fois les communes et les habitants. Donc, on va essayer de creuser un petit peu cette thématique, proposer des formations en agroécologie aux jardiniers pour qu'ils puissent savoir un petit peu comment cultiver en étant respectueux de l'environnement, travailler avec les crèches, donc les carrés potagers, ça a été dit, travailler aussi sur le don alimentaire, essayer de voir un petit peu sur nos supermarchés, sur nos gros producteurs, sur les fins de marché. Est-ce que dans les produits qui restent à l'issue du marché, par exemple, est-ce que tout est bon à jeter ou est-ce qu'il y aurait des choses qui pourraient être valorisées en don ? Voilà, il y a toute encore une thématique d'action. On est sur un PAT 2. Donc ça va se poursuivre.
PAT le retour.
C'est ça.
Alors j'ai croisé sur les réseaux sociaux un appel aux familles pour répondre à un questionnaire autour de leurs pratiques autour de l'alimentation. Est-ce que c'est encore au goût du jour ? Pourquoi faire ? Qu'est-ce ?
Tout à fait. Les familles qui veulent être volontaires, c'est avec plaisir. Il suffit de s'inscrire en nous envoyant un mail à la communauté de communes. L'objectif, c'est un peu ce que tu disais, Annabelle, c'est qu'on aimerait essayer de voir si les interventions qu'on fait auprès des enfants ont un impact sur les familles. Est-ce que les parents sont au courant de ce qui se fait à l'école par rapport à l'alimentation ? Et donc, ce questionnaire, c'est un questionnaire de suivi de familles qui ont envie de nous de partager leurs pratiques alimentaires. C'est tout à fait anonyme, hein, y a pas du tout de... on respecte l'anonymat de chacun. Mais le but est de mieux comprendre la façon dont les familles du territoire consomment, quelles connaissances ils ont de l'agriculture, quels avis elles ont sur la cantine de leurs enfants. En fait, ça va être 5 questionnaires qui s'échelonnent dans le temps. Il y en a déjà eu 2. Mais si des familles veulent se rajouter, il n'y a pas de souci, on rattrape et puis elles font les questionnaires au fur et à mesure.
Est-ce qu'il y a des zones dans le maillage territorial où il vous manque des personnes ?
Je crois qu'on souhaiterait en avoir plus dans toutes les zones de la communauté de communes.
Voilà. Parce que quelle que soit la localisation des familles, n'hésitez pas, contactez-nous, on vous inscrit dans le programme.
Bon, eh bien merci beaucoup.
Merci.